VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui. Nous sommes vendredi 8 septembre 2017 au sommaire. Plusieurs interpellations à Lomé, des affrontements dans un quartier favorable à l'opposition. La tension toujours de mise au Togo. Les armées maliennes et burkinabées indexées par l'ONG Human Rights Watch, ce qui les accuse de crimes commis dans le cadre de leur lutte contre les groupes armés. Affrontement à Priya, dans l'est de la Centrafrique, opposant deux factions de l'ex-rébellion Séléka. Ici aux États-Unis, le gouverneur de l'État de Floride demande aux résidents d'évacuer leur maison à l'approche de l'ouragan Irma, qui a déjà fait des dégâts importants dans les Caraïbes. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Togo, la tension n'est pas retombée au lendemain des manifestations de l'opposition pour exiger le retour à la constitution de 92. Des affrontements entre forces de l'ordre et jeunes d'un quartier réputé proche de l'opposition ont eu lieu ce matin. Kay Lawson pour les derniers développements.
Après la manifestation de l'opposition réprimée tard dans la nuit au cœur de la capitale, des jeunes de Bay, un quartier populaire réputé fief de l'opposition, ont repris avec le bras de fer dans la matinée. Barricades, pneus brûlés, jets de pierre avec la réplique de grenades lacrymogènes, c'est ainsi que s'est présentée la scène. À la mi-journée, les forces de l'ordre ont fait une descente au domicile du président du PNP, Atiadam Tikpi. Plusieurs arrestations dans la nuit du jeudi à vendredi dénoncent l'opposition. Après cette répression, l'opposition demande à la population de ne pas se démobiliser. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition.
Nous appelons les populations à la plus grande mobilisation parce que les jours que nous vivons, les moments que nous vivons sont des moments très importants pour l'avenir de notre pays. Donc la résistance continue.
La solidarité semble être de mise dans les rangs de l'opposition. Jean Kissi du comité d'action pour le renouveau, car...
Aujourd'hui, là, s'ils arrêtent une personne parmi nous, nous tous on sera là-bas où ils peuvent nous arrêter tous. Yeah. Voilà, ils n'ont qu'à construire assez de prisons. Peut-être pour tous les deux.
Pour la poursuite des revendications, le mot d'ordre de l'opposition est attendu pour le lundi prochain. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
L'ONG Human Rights Watch dénonce des meurtres extrajudiciaires et des actes de torture commis, selon elle, par les forces armées maliennes et burkinabées lors de leurs opérations contre les groupes armés islamistes dans le centre du Mali. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Human Rights Watch affirme dans son communiqué que les militaires maliens et burkinabés ont infligé des sévices, notamment des brûlures et autres brutalités, à des dizaines d'hommes accusés de soutenir les groupes armés islamistes. L'ONG de défense des droits humains basée à New York fait également état de 27 cas de disparition forcée. Human Rights Watch épingle aussi les groupes djihadistes. Selon elle, les islamistes armés ont procédé à des exécutions sommaires de civils et de militaires, détruit des écoles et recruté de force des enfants soldats. Ces violations se sont produites entre fin juin 2016 et juillet 2017 dans les régions de Mopti et de Ségou. Corinne Doufka de la division Afrique à Human Rights Watch estime que le gouvernement malien et burkinabé devrait mieux contrôler les unités qui ont perpétré ces exactions et poursuivre en justice les responsables. En juin, des militaires venus du Burkina Faso ont franchi la frontière commune et arrêté au Mali quelques 70 hommes en les accusant de soutenir le groupe djihadiste Ansarul Islam du prédicateur burkinabé Malam Diko.
Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a un nouveau président, Alassane Bala Sakonde, un proche du président Marc Christian Kabore, a été élu à la tête du Parlement en remplacement de Salifou Diallo, décédé fin août. Monsieur Sakonde, 48 ans, compagnon de longue date du président Kabore et président du groupe parlementaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès au pouvoir, a recueilli 104 voix sur les 127 députés votants. Plusieurs attaques menées par Boko Haram ont fait 8 morts dans des villages du nord-est du Nigeria. Les attaques ont été menées mercredi et jeudi par des hommes armés arrivés à bord de pick-up et de motos dans les environs de Maiduguri, capitale de l'État du Borno et fief historique du groupe islamiste nigérian. De nombreuses maisons ont été rasées, des stocks de nourriture et de bétail pillés dans une attaque visant de jeunes membres de milices civiles engagés aux côtés de l'armée contre Boko Haram. Des experts nigériens et cubains ont lancé à Niamey une campagne inédite de destruction des gîtes et larves de moustiques responsables du paludisme. Selon le gouvernement, cette maladie tue chaque année quelques 2000 personnes, en majorité des enfants, dans le pays. Durant cette campagne de 20 jours, des traitements aériens sont prévus dans les zones envahies par les eaux de pluie et les inondations qui frappent Niamey depuis le mois de juin. De violents combats ont secoué Bria dans l'est de la Centrafrique, faisant au moins un mort et 53 blessés, selon un premier bilan de l'ONG Médecins Sans Frontières. Les combats ont opposé deux factions en conflit du groupe armé Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique. Nous reviendrons sur les violences en RCA dans la partie magazine de cette édition. L'ONU a dénoncé ce vendredi des destructions massives et des souffrances humaines à très grande échelle dans la région du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, en proie à des troubles depuis plus d'un an. Selon un porte-parole du HCR, 9 villages sur 10 près de la ville frontalière de Kamako ont été entièrement brûlés lors d'attaques menées par des groupes armés ou lors des combats entre ces groupes et les forces gouvernementales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les autorités en Floride et en Géorgie ont ordonné l'évacuation d'au moins 1 million de personnes avant l'arrivée de l'ouragan Irma qui a déjà fait des dégâts importants dans les Caraïbes. Bagasikoura.
Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a déclaré ce matin que tous les habitants de cet État du sud-est des États-Unis, où le puissant et dévastateur ouragan Irma est attendu dimanche matin, devraient se préparer à évacuer bientôt. La Floride compte plus de 20 millions d'habitants. À ce stade, plus d'un million de personnes sont visées par des ordres d'évacuation obligatoires dans cet État et dans l'État voisin de Géorgie, a indiqué Brock Long, patron de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence. L'ouragan Irma, rétrogradé en catégorie 4, mais toujours dangereux, soufflait vendredi ses premières rafales sur l'est de Cuba et devrait se rapprocher de l'île dans la soirée, ont rapporté les autorités cubaines. Au même moment, l'ouragan José, qui se trouve dans l'Atlantique à 700 km à l'est des Petites Antilles, s'est renforcé en catégorie 4 avec des vents de 240 km/h, a indiqué vendredi le Centre américain des ouragans. C'est désormais un ouragan extrêmement dangereux, a prévenu le NHC. José se déplace dans le sillage de l'ouragan Irma, une immense dépression actuellement de catégorie 4 qui a déjà dévasté plusieurs îles des Caraïbes en étant catégorie 5 et menace Cuba, les Bahamas et une grande partie de la Floride.
Le président américain Donald Trump a appelé à l'unité entre des pays du Golfe pour vaincre le terrorisme. Lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, M. Trump a souligné l'importance pour tous les pays de tenir leurs engagements du sommet de Riyad pour maintenir l'unité afin de vaincre le terrorisme, couper le financement des groupes terroristes et combattre les idéologies extrêmes. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Un soldat ukrainien a été tué par un bombardement dans l'est de l'Ukraine, contrôlé par les rebelles pro-russes. Il s'agit du premier mort du côté ukrainien depuis l'instauration de la nouvelle trêve décrétée pour la rentrée scolaire. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 10 000 morts depuis avril 2014. Un tribunal turc a ordonné la remise en liberté provisoire d'un député et porte-parole du principal parti d'opposition pro-kurde arrêté fin janvier. Aylan Bilgen, alors porte-parole du HDP, avait été arrêté le 31 janvier, notamment pour des soupçons d'appartenance à une organisation terroriste et incitation au crime. Ces accusations sont liées à une série de manifestations menées en octobre 2014 par les militants pro-kurdes en soutien aux Kurdes en Syrie, menacés par le groupe État islamique. Et puis l'épouse du premier ministre israélien risque d'être jugée pour avoir fait passer des dizaines de milliers de dollars de repas fin aux frais du contribuable, ajoutant aux ennuis de Benjamin Netanyahou. Si Mme Netanyahou, figure omniprésente et réputée influente, était effectivement renvoyée devant les juges, il s'agirait de la première inculpation dans les différents dossiers touchant le premier ministre. Un puissant séisme a frappé le sud du Mexique la nuit dernière. Un bilan fait état de 32 morts et Kébadou.
Le séisme d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter est le plus puissant depuis celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts. C'est également le plus puissant des 100 dernières années dans le pays, a souligné le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui a fait état de plusieurs maisons détruites dans l'état méridional de Chiapas. Des écoles et des hôpitaux ont aussi été touchés, a précisé de son côté le gouverneur de cet état. Par précaution, les autorités ont fermé les écoles dans 11 états. L'épicentre du séisme se situait à environ 100 km au large des côtes de l'état de Chiapas et la secousse a été ressentie jusqu'à Mexico. Alertés par les 8200 mégaphones déployés dans la capitale mexicaine, ces quelques 20 millions d'habitants sont descendus précipitamment dans la rue, parfois même en pyjama, provoquant des mouvements de panique. Le centre américain d'alerte au tsunami avait fait état d'une menace de tsunami dans plusieurs pays d'Amérique centrale, mais est revenu sur cette prévision.
Fin de cette édition, on passe à la Minute Éco avec Dili Dico.
Le Tchad annonce avoir obtenu des bailleurs de fonds réunis à Paris 20 milliards de dollars de promesses d'investissement pour financer son plan de développement 2017-2021. Les nombreux engagements des secteurs publics et privés attestent de l'intérêt des investisseurs pour les 300 projets mis en avant par le Tchad. L'Union européenne promet 925 millions d'euros, nettement plus que les 442 millions d'euros pour la période 2014-2020. Et la Banque mondiale compte doubler sa participation financière qui s'élevait à 214 millions au titre de 2017. Au Congo, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, vient d'annoncer que les propriétaires terriens disposent d'un mois à compter du 7 septembre pour se faire enregistrer dans un fichier commun au risque de se voir infliger des sanctions sévères.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdulrahman, bonsoir à tous.
On démarre par l'Afro-Basket 2017 masculin. C'est parti.
Et oui, la 29e édition de l'Afro-Basket masculin a débuté à Dakar et Tunis. Ces deux villes ont accepté d'accueillir la compétition après les désistements du Congo et de l'Angola. C'est la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations de basketball est organisée conjointement par deux pays. Le Sénégal, pays co-organisateur, est logé dans le groupe D en compagnie de l'Égypte, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Dans le groupe B, on retrouve l'Angola, la Centrafrique, le Maroc et l'Ouganda. Tenant du titre, le Nigeria partage le groupe A avec la RDC, le Mali et la Côte d'Ivoire. La Tunisie, la Guinée, le Rwanda et le Cameroun forment le groupe C. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront à Tunis. En ouverture cet après-midi, l'Égypte a battu le Cameroun 75-47. Le Mali domine la RDC 87-82. Le Rwanda bat la Guinée 75-55. À suivre Tunisie-Cameroun, Sénégal-Afrique du Sud et Nigeria-Côte d'Ivoire.
Le Cameroun connaît le nom de ses nouveaux dirigeants en football.
Après moult tractations, c'est Maître Dieudonné Happy, avocat au barreau du Cameroun, qui a finalement été nommé président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football.
Des matchs du championnat d'Espagne pourraient être délocalisés à l'étranger, en Chine ou aux États-Unis à partir de la saison prochaine.
Annonce du président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas. Désireux de renforcer l'attractivité de sa compétition à l'international, dans son édition de ce vendredi, le Financial Times évoque la possibilité, par exemple, que le FC Barcelone et le Real Madrid, locomotive de la Liga, soient concernés par le projet. On rappelle qu'en juillet, ces deux géants du football s'étaient affrontés à Miami pour le premier Classico hors d'Espagne depuis 1982, à l'occasion de la Coupe internationale des champions, un tournoi amical de pré-saison disputé aux États-Unis.
Enfin, tennis, place aux demi-finales de l'US Open.
Après avoir fait chuter Roger Federer en quart de finale, Juan Martín Del Potro défie un autre géant du tennis, Rafael Nadal. C'est tout à l'heure, lors des demi-finales de l'US Open. Pour la première fois de leur carrière, l'Espagnol Pablo Carreño Busta et le Sud-Africain Kevin Anderson vont se rencontrer dans l'autre demi-finale.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Dans un rapport publié cette semaine, l'ONU s'inquiète des signes avant-coureurs d'un génocide en Centrafrique. Au moins 34 morts ont été dénombrés dans des combats entre les groupes armés de l'ex-coalition Séléka de confession musulmane et ceux des milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes depuis juillet dernier dans la région sud-est du pays, occasionnant près d'un million de déplacés. Face à cette situation qui perdure, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités. Joseph Bindoumbi, joint par Félix Yapassi Zembro.
Vous ne pouvez pas imaginer qu'à Gambo, à Zénio, on massacre des personnes devant les chars des Nations Unies sans brosser. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il commence à y avoir un ras-le-bol qui permet aux autres qui se rendent compte qu'on est en train de les dissimer sous les yeux de la communauté internationale. Donc ils choisiront certainement d'un moment à l'autre entre mourir maintenant ou être égorgé plus tard. Il y a de fortes chances, effectivement, que nous puissions arriver à une situation tout à fait irréparable. Mais là, la communauté internationale est entièrement responsable.
L'on craint que cette crise ne perdure malgré la présence des casques bleus en Centrafrique. Bon, qu'est-ce que vous en dites?
C'est les casques bleus qui favorisent que cette guerre perdure. Vous savez que quand les casques bleus sont arrivés, nous avions seulement deux groupes qui se battaient. Nous savons qu'ils avaient les Séléka qui avaient fait la terreur et puis qui ont réveillé une partie de la population qui se sont formés sous forme d'anti-Balaka et qui ont contré les violences de Séléka. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transporté les autres pour les amener à Bambari, qui est devenu aujourd'hui à feu et à sang. Ils les ont transportés armes et bagages pour les amener à Karabandoro. Et ils ont pris par avion pour amener un délai. Et ils ont continué quand ils devaient dégager à l'Idaras de Bambari. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas désarmé. Ils ont seulement dit de quitter la ville et puis de continuer vers Alindao, vers les autres coins qui sont aujourd'hui en feu et à sang. Ce qu'il faut maintenant craindre, c'est que la grande majorité du peuple qui comprend qu'elle est victime d'un complot, il va y avoir des sursauts à tout moment. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps que les anti-Balaka ont dit qu'ils ont gardé le calme pendant tout le temps et que maintenant ils savent qu'on est en train de tuer des Centrafricains sans que la communauté internationale bronche. Et à partir de ce moment-là, ils vont prendre leurs responsabilités pour mourir avec leur peuple. Alors, vous comprenez que si c'est ça, c'est le génocide.
Mais maintenant, Monsieur le Président, quel appel lancez-vous à la communauté internationale face à cette crise?
Aujourd'hui, plus personne n'a aucun appel à lancer. On a demandé au Conseil de sécurité, au comité des sanctions, pour leur dire qu'il n'est pas juste que tout le monde, eux, avec les radars, les satellites, ils voient bien des djihadistes partis du Soudan, du Darfour ou du Ténéré, du Tchad, pour venir en République centrafricaine, semer le désordre. Il y avait deux groupes qui se battaient au départ. Et aujourd'hui, on a 14 groupes, peut-être bientôt 15, qui rentrent sous leurs yeux. Ils disent qu'ils sont venus pour protéger les populations civiles. Depuis leur arrivée, le nombre de morts s'est multiplié énormément. Donc, vous comprenez, tous les prétextes sont faits pour que, ce n'est même pas la République centrafricaine, c'est pour que l'Afrique centrale s'embrase. Parce que le combat qui va avoir lieu en République centrafricaine, le Tchad sera touché. La République démocratique du Congo, avec qui nous avons plus de 2000 km de frontière, va réagir. Le Cameroun va réagir pour protéger sa frontière. Donc, ce sera vraiment la sous-région d'Afrique centrale qui sera à feu à sang.
C'était Joseph Bindoumbi, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La commission électorale du Kenya est en crise depuis l'invalidation de la présidentielle du 8 août dernier. Le président de cette commission, Wafula Chebukati, a sommé son directeur exécutif de s'expliquer sur les défaillances dans la conduite de cette élection. Cette commission va-t-elle pouvoir organiser le nouveau scrutin à la date butoir du 17 octobre? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à Ibrahim Khan, le directeur de plaidoyer à l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine.
Ce sera certainement très difficile parce que d'abord, il y a un certain nombre de questions que la commission doit régler, mais qui dépendent de l'obtention par la commission de la copie de la décision, qui n'est pas encore disponible. Et puis deuxièmement, la commission a voulu anticiper en essayant de se réformer un peu pour préparer l'élection. Mais cette anticipation pose beaucoup de problèmes parce que le président de la commission a critiqué le directeur exécutif, a essayé de mettre en place une équipe. Mais on vient d'apprendre aujourd'hui que deux membres de la nouvelle équipe ont refusé de participer aux activités proposées. Et donc, cette crise qui couvre au niveau de la commission risque vraiment de plomber tout le travail qui doit être mené d'ici le 17 octobre. Et je doute fort que le 17 octobre puisse être la date des élections.
Justement, pour l'heure, les questions au cœur des plaintes de l'opposition liées au système d'identification biométrique, à la transmission des résultats et au décompte des voix demeurent en suspens. Que va-t-il donc se passer d'après vous ?
La presse a pu obtenir une lettre interne de la commission, mais qui donne des indications très précieuses sur les problèmes que la commission elle-même a rencontrés pendant l'élection. Les informations qui sont contenues dans cette lettre accréditent bien la thèse d'une très, très, très mauvaise préparation de l'élection et d'une très mauvaise conduite au niveau de la commission pendant la transmission des informations. Je pense que ces éléments-là qui sont contenus dans cette lettre peuvent déjà aider la commission, si elle est bien sûr fonctionnelle, à régler un certain nombre de problèmes qui sont à la fois techniques et pratiques. Technique parce que le matériel de la commission, en vérité, n'a pas fonctionné le jour de l'élection pour diverses raisons. Deuxièmement, matériel parce que des actes qui étaient prévus par la loi et qui n'ont pas été accomplis. Donc, de ce point de vue, la commission peut vraiment commencer à faire ce travail. Mais il se trouve que la commission ne sait pas avec exactitude ce qu'on lui reproche. Et c'est ça qui fait que même si la commission était aujourd'hui en place pour commencer le travail, il lui serait difficile de le faire à cause de la non-disponibilité de la décision de la Cour qui certainement sera publiée la semaine prochaine ou la semaine d'après. On ne sait pas encore.
Pensez-vous qu'on ne pourra juger de la portée de ce verdict qu'au terme de ce nouveau scrutin ?
Ce qui est ici mis en exergue, c'est le courage des juges, le message qu'ils lancent à tous les juges africains pour leur demander que lorsqu'ils sont convaincus que les lois du pays n'ont pas été appliquées de manière adéquate, qu'il leur faut prendre la décision idoine. Ce qu'ils ont fait, me semble-t-il, peut vraiment aider à asseoir les bases d'une démocratie solide au Kenya. L'élection prochaine se passera inévitablement de manière très différente.
C'était Ibrahima Kan, directeur de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Lors de la conférence des donateurs pour le plan national de développement du Tchad qui s'est clôturée ce vendredi à Paris, les autorités de N'Djamena disent avoir obtenu des engagements des bailleurs de fonds à hauteur de 10 000 milliards de francs CFA. Pour savoir comment les Tchadiens voient cette décision du gouvernement de solliciter des financements en ce moment, Nathalie Barge a joint le docteur Routag Ilo Ngaoudande de l'université de N'Djamena.
Dans une grande communauté comme celle-là, ce n'est pas tout le monde qui peut partager le même avis. Mais il y a aussi des pessimistes qui considèrent que, malgré le bouleversement que le pays a connu, même si on doit engranger des ressources financières, est-ce que ça peut servir à quelque chose ? Moi, je crois qu'il vaut mieux oser que de ne pas oser.
Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, vous, professeur, qu'au plan de l'éducation, cette conférence de donateurs pourrait apporter quelque chose ?
Si ce forum pour rapporter assez de ressources, ça permettait de juguler un peu la situation parce que nous avons des bacheliers de deux sessions déjà qui sont restés à la maison, qui ne peuvent pas aller à l'université pour étudier. Ça constitue un grand problème pour nous autres enseignants chercheurs. Si cet argent est donné, nous aurions aimé quand même que la communauté internationale puisse mettre en place une commission qui puisse travailler avec le gouvernement tchadien de manière à bien gérer cet argent-là. C'est ça l'inquiétude de beaucoup de gens qui trouvent que est-ce que ça peut aider à quelque chose. Mais moi, je crois quand même que si on met des hommes intègres en bonne position, ça peut aider à juguler le problème.
Mais vous, au niveau de l'éducation nationale toujours, est-ce que vous avez demandé par exemple des garanties au gouvernement justement par rapport à ces grosses sommes qui vont être allouées donc notamment à plusieurs budgets du gouvernement, on ne sait pas lesquels encore ?
Oui, ben les garanties, c'est quoi, madame? Les garanties pour nous autres citoyens lambda, aujourd'hui, l'éducation, c'est le plaisir de savoir si l'État trouve que par le développement, l'éducation est le vecteur le plus approprié. Je crois qu'il appartient au gouvernement, la somme qui sera allouée pour l'éducation nationale, qu'on mette en place une commission qui va bien gérer et rendre compte aussi aux partenaires, parce que les bailleurs ne vont pas donner de l'argent et qu'ils ne pas faire le suivi. Ça serait important que les bailleurs aussi fassent le suivi de ce qui se passera à Paris.
Professeur, est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous pensez que ça va se passer mieux que par le passé?
Moi, je crois que l'espoir fait vivre, parce que si on n'a pas d'espoir, on n'a plus d'avenir. Et donc, nous avons toujours espoir pour qu'aujourd'hui, le Tchad sorte quand même un peu de cette difficulté qu'on est en train de vivre en ce moment.
C'était le professeur de littérature Réoutag Ilro Ngaoudande, joint à N'Djamena. Nous avons également tenté de joindre des membres de la délégation gouvernementale tchadienne à Paris, mais sans succès.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Hajj 2017 est terminé et pour la quasi-totalité des pèlerins venus de partout dans le monde, l'heure est au préparatif du retour au pays. Et ce vendredi était l'ultime occasion pour eux de faire une dernière prière dans la mosquée sainte. Le reportage de Cyril Kibarou.
Il n'est que 9h ce matin à la Mecque. Mais ils sont nombreux, déjà, ces pèlerins à se bousculer pour se rendre à la mosquée Haram pour y accomplir leur dernière prière de vendredi avant le retour au pays. El Hadj Moukinou Salami est béninois. Pour son dernier vendredi en Terre Sainte, il adopte une attitude de reconnaissance et de gratitude envers Dieu.
Le sentiment de joie, nous remercions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour tout ce qu'il nous a fait cette année. Et nous remercions les organisateurs du Hadj en Arabie Saoudite qui ont pu faire l'organisation de telle manière que ça s'est bien passé cette année.
Une fois la prière accomplie, la joie et la fierté sont au rendez-vous. En atteste les propos de Mamadou Abo, un ressortissant camerounais.
Nous venons de prier la prière du vendredi, un grand imam qui a fait un bon khutba sur les principes du Hajj. Je compte rester dans la dynamique du khutba de l'imam de ce jour. Après, chez moi, je sensibiliserai tout le monde. Après ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu ici à la Mecque, et je compte revenir plusieurs fois pour le Hajj, Inch'Allah.
Le Hajj demande de l'endurance physique, surtout avec les conditions climatiques particulièrement difficiles de l'Arabie Saoudite. Amadou Tierno Silla, venu de la Guinée-Conakry, est malade. Mais aujourd'hui, il ne s'est pas fait prier pour se rendre dans le premier lieu saint de l'islam.
On n'est pas venu pour chercher le football ou autre chose ou la politique. On est venu chercher pour le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a demandé. Mais je suis malade là où je suis. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, je me suis bâti pour venir faire la dernière prière. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala.
Après cette édition 2017 qui s'est assez bien déroulée dans l'ensemble, les autorités saoudiennes préparent déjà le Hajj 2018. Les travaux pour l'agrandissement de la mosquée vont se poursuivre, ce qui permettra d'accueillir encore plus de pèlerins les années à venir. Cyril Kibarou, depuis la Mecque, pour VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci d'avoir suivi cette édition qui est terminée, édition réalisée par Lionel Gaïma à la console Justin Twets, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook, rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.